Fassio Duhamel inédit ce soir, puisque nous sommes avec Lucie Casté. Bonsoir, Madame Casté.
Bonsoir.
Je rappelle que pendant un temps, vous étiez propulsée en première ligne par le Nouveau Front Populaire pour aller à Matignon, après les élections législatives l'an dernier. Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Faut-il l'union sacrée derrière le président Macron dans cette crise que l'on connaît en ce moment, Alain Duhamel ?
Écoutez, dans une France rêvée, sûrement. Dans une France réelle, évidemment, non. Évidemment non, parce qu'il y a deux extrémités qui existent, qui ont leur conception, leur réaction. Bon, à l'extrême droite, il y a le Rassemblement National, pour qui le nationalisme l'emporte sur tout, et donc pour qui l'Europe de la défense, c'est l'abomination de la désolation. Et donc qui, en pratique, se résigne, ou s'aligne, ou même sont peut-être contents de s'aligner, j'en sais rien, sur Trump. De l'autre côté, la gauche s'est scindée en deux. Il y a eu d'une part les socialistes et les écologistes, qui sont non pas du tout devenus macronisme par un coup de baguette magique, mais qui considèrent que les circonstances sont tellement graves qu'il faut accepter des changements et réfléchir à effectivement une réponse collective, donc à une forme de défense européenne. Et puis, il y a ceux qui sont, non pas nationalistes comme l'extrême droite, mais au contraire internationalistes, et Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste, qui refusent, qui ressembleraient de près ou de loin à un alignement européen, et qui, eux, prennent une position qui est une sorte de neutralisme, mais qui, dans la réalité, est un neutralisme russophile, c'est-à-dire plutôt favorable à Poutine. Alors, d'un côté, l'extrême droite, en fait, s'aligne sur Trump. De l'autre côté, la gauche de rupture, on peut l'appeler comme on veut, elle fait du neutralisme russophile et regarde vers Poutine sans plaisir, probablement. Mais bon, voilà, c'est une situation difficile. Mais c'est une situation difficile dans des circonstances qui sont à la fois historiques par la rupture qu'implique la fin, jusqu'à présent en tout cas, de l'alliance avec notre plus vieil allié historique, hein. Bon, c'est quand même depuis Louis XVI. Bon, et d'autre part, avec l'incertitude qu'il y a quand même avec Trump, on ne sait jamais ce qui peut se passer après-demain, y compris le contraire de ce qui s'est passé avant-hier.
Là où je rejoins Alain Duhamel, c'est sur le fait que je pense qu'il n'est pas possible de donner un blanc-seing au président de la République, enfin en tout cas de dire union nationale d'une manière totalement abstraite. Et donc je pense qu'il est sain dans une démocratie mature de pouvoir discuter, y compris peut-être même a fortiori des sujets internationaux. Et je pense que c'est très bien que ça ait été organisé hier à l'Assemblée nationale. Je nuancerai un peu le propos sur le revirement macroniste de la part d'une partie de la gauche.
Pas macroniste. Hein.
Non, mais en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas rejoint particulièrement les positions macronistes, par exemple sur l'Europe de la défense. Hein, une partie de la gauche a toujours défendu la nécessité d'avoir davantage d'intégration européenne, y compris dans le domaine de la défense. Et sur les insoumis, j'ai effectivement entendu un discours extrêmement virulent sur les États-Unis, moins sur la Russie. Je dirais pas pour autant que c'est un discours russophile.
Neutraliste.
Je pense qu'on peut condamner davantage la Russie et soutenir explicitement l'Ukraine, mais je n'ai pas entendu un discours russophile dans les rangs de la gauche, est ce qui contraste très fortement avec la posture du Rassemblement National, quand même, qui est historiquement beaucoup plus proche de la Russie dans l'hémicycle.
Mais moi, je ne dis pas du tout que le Parti Socialiste et les écologistes, en l'occurrence, aient rejoint Emmanuel Macron. Il se trouve qu'ils sont tous européens et qu'ils sont tous conscients de la gravité de la situation et qu'ils considèrent que dans ces circonstances-là, il faut innover. Mmh. Et il se trouve, parce que ça, c'est Emmanuel Macron, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il se trouve qu'en ce qui concerne l'Europe de la défense et l'autonomie stratégique, c'est vraiment son idée fixe depuis 2017.
Hein, oui,
et qu'il a essayé 10 fois d'entraîner les partenaires dont il faut bien dire que les Allemands étaient les plus réticents.
C'est vrai, et d'ailleurs, les Allemands sont ceux qui ont été largement non préparés, et je pense qu'on aurait pu, nous aussi, la France, mais globalement l'Union européenne, se préparer davantage à l'arrivée de Trump, puisqu'on sait déjà depuis plusieurs mois qu'il est élu président des États-Unis.
Donc, on subit trop, finalement, les foucades américaines.
Je pense qu'on subit trop, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est une bonne chose d'avoir organisé ce débat à l'Assemblée nationale.
Ah bah oui.
Je pense que la parlementarisation...
C'est pas seulement une bonne chose, c'est
indispensable.
Nécessaire.
C'est sans vote.
Je pense que la représentation nationale doit être davantage associée aux décisions stratégiques. Et là, je pense qu'on peut... Enfin, moi, en tout cas, je suis très critique sur le fait que le président de la République a parfois pris des décisions seules, en matière notamment d'affaires internationales. Je pense que, par exemple, sa décision de confier un rôle majeur aux Émirats arabes unis sur la question de l'intelligence artificielle est un problème et que ça aurait dû être débattu par la représentation nationale. Donc,
Cinquième République.
Tout à fait, mais avec une conception extensive des prérogatives présidentielles dans le cadre de cette constitution.
À défaut de se ranger derrière Emmanuel Macron, est-ce qu'il faut se ranger derrière Madame von der Leyen, qui dit aujourd'hui il faut 800 milliards, il faut qu'on se prépare et on doit avancer dans l'Europe de la défense.
C'est extraordinaire, c'est à quel point quand a surgi un moment historique comme celui qu'on a vécu, on a tous vu ce qui s'est passé vendredi, c'était quand même hallucinant. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qui, au niveau européen, semblait totalement impossible et complètement exclu depuis des décennies, brusquement, non seulement s'en trouve, mais qu'on parle de sommes absolument gigantesques.
Comme au moment du Covid.
Oui, mais c'est les sommes, s'il est question de 800 milliards, bon, faut se rendre compte
Oui, c'est vrai. Et l'Europe s'est souvent construite dans les crises. Je pense qu'on peut déplorer.
Est-ce qu'elle a raison, Madame von der Leyen, alors du coup?
Elle a raison de dire qu'il faut augmenter l'effort budgétaire européen dessus. Elle a raison de dire qu'on peut envisager des réductions, enfin des aménagements des règles budgétaires européennes. Moi, je regrette qu'on ne fasse pas, par exemple, pour financer les services publics et la santé publique. Il en a été question lors de la crise Covid, mais il en est toujours question aujourd'hui. On a des services publics qui sont aux abois. On a une question d'innovation. Ce qui me manque là, c'est une vision stratégique et une vision transversale. Et je trouve qu'on a une réaction européenne qui est pour le moins paradoxale. Avec une forme presque de mimétisme de la réaction trumpiste, notamment sur la question de l'aide publique au développement. On a l'agence américaine qui s'appelle USAID qui a annoncé son retrait des financements des ONG internationales humanitaires. C'est un désastre pour la vie de millions.
Musk qui l'a coupé.
Oui, tout à fait, mais Musk sous l'autorité du président Trump. Et on a des pays européens qui emboîtent le pas. On a les Pays-Bas, on a la Belgique, on a même la France qui annonce la réduction de l'aide publique au développement. C'est une erreur stratégique majeure. C'est une erreur non seulement au titre de nos principes humanistes qu'on défend en Europe et qu'on doit continuer à défendre, mais aussi sur le plan stratégique. C'est une erreur massive, majeure, parce qu'on prépare des conditions d'insécurité de demain qui sont beaucoup plus fortes, alors que la France et l'Europe devraient peser de tout son poids pour défendre une position stratégique qui est à l'opposé de ce que fait Trump, et je pense que l'Union européenne ne le fait pas. Elle est dans une réaction de défense, une réaction de gestion de crise, mais ne propose pas une vision alternative.
Alors, en ce qui concerne la décision de Trump, c'est évident qu'elle est catastrophique, puisque les États-Unis étaient quand même classiquement le plus grand donateur, en tout cas comme nation, et donc les conséquences seront certainement terribles, partout dans le tiers-monde en réalité, donc dans plus de la moitié de la population mondiale. En ce qui concerne les Européens, c'est un fait que, avant même l'algarade de Trump, on était en pleine période de repli au sein de chaque pays. Et que les aides au développement avaient diminué. Des pays étaient dans le temps relativement généreux l'étaient beaucoup moins, dont la France la France. Et bon, dans des circonstances comme ça, je comprends que on trouve que la priorité serait aussi de penser aux pays qu'on doit aider. C'est évident que quand on est dans une période de retour à des formes soit de peur, soit du lendemain, comme c'est le cas. Les Français, d'ailleurs, on le voit dans le sondage qu'on publie aujourd'hui, les Français ont peur de ce qui peut se produire.
De l'extension du conflit, voilà.
Mais si on a peur du lendemain et si on a peur de la guerre, sur le plan géopolitique, c'est une aberration l'aide publique au développement, par exemple.
Je suis d'accord. Sur le fond, vous avez tout à fait raison. Mais
il y a des priorités,
en l'occurrence, la réaction je ne dis pas du tout souhaitable, mais inévitable, c'est que les pays, quand ils se trouvent brusquement devant une situation, un, qui les prend de court, deux, qui leur fait peur, et trois, dont ils se disent que ça change tout ce qu'ils connaissaient, dans ces cas-là, ont des réactions qui sont des réactions beaucoup plus d'égoïsme que des réactions de responsabilité.
Là où je suis pas d'accord, c'est que moi, je pense que c'est évitable et que c'est la responsabilité des leaders politiques que d'éviter ça et de se coordonner et de s'organiser pour éviter ça. Je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant historique et que l'Union européenne a un rôle crucial à jouer et qu'elle, pour l'instant, elle semble être dans la réaction défensive et de pas proposer une vision alternative. On peut citer plein d'autres exemples.
Elle s'arme.
Il y a l'aide publique au développement. Oui, mais tout ça est compatible et tout ça doit nécessiter une concertation et une coordination générale, une approche globale. Quand on pense, c'est une question, la question des États-Unis, c'est pas qu'une question militaire ou géopolitique. C'est aussi une question économique, une question financière, une question d'investissement dans l'innovation
et même une question sanitaire très importante.
Oui, tout à fait.
Bah oui, parce que le fait qu'ils coupent brusquement toutes les aides dans ce domaine, ça peut entraîner des pandémies.
Pour revenir à notre question, tous derrière Macron, indéniablement, politiquement, c'est une opportunité pour Emmanuel Macron, qui était en grande difficulté sur le plan de la politique intérieure, qui avait du mal à trouver un rôle, et là, qui tout d'un coup reprend la main, en plus sur une question qui l'intéresse depuis le début, c'est-à-dire l'idée de
qu'il avait théorisé quand même.
De construire un projet d'Europe de la défense.
Oui.
C'est une chance, entre guillemets.
Disons que les circonstances lui rendent un rôle qu'il avait perdu. Bon, sur le plan intérieur, ça ne change strictement rien. C'est pas lui qui va pour autant diriger le gouvernement.
Il retrouve une certaine popularité.
Moi, je pense.
Ça peut. D'abord, ça lui rend un rôle. Bon. Ensuite, il se trouve qu'en Europe, il est quand même. Il a commis des erreurs dans d'autres domaines, mais en Europe, il est quand même le premier à avoir devancé la situation actuelle en faisant campagne à chaque fois, autant qu'il le pouvait, notamment dans deux discours célèbres, mais enfin, il n'y avait pas que des discours, il y avait une tentative réelle d'organiser ce qui maintenant s'esquisse dans la précipitation et dans, ce qui est plus embêtant, dans l'irréflexion. Et c'est ce qui va se passer très vraisemblablement jeudi à Bruxelles, où il y a une grande réunion, où il y aura les 27, où tout le monde discutera, et où ça risque d'être en même temps une cacophonie épouvantable.
À l'habitude.
Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'il y aura quand même un enjeu très fort à l'échelle nationale et évidemment à l'échelle européenne sur la répartition de l'effort. On parle du fait qu'il faut augmenter les dépenses en matière de défense.
Oui.
Soit.
3% du PIB.
Mais donc, ça veut dire.
Minimum.
Et déjà, bon, la France était plutôt bien située à cet égard par rapport à ses partenaires européens.
Là, c'est quasiment 10 milliards qu'on trouvait.
Bien sûr, mais donc la question de la répartition de l'effort va se poser et va se poser avec une acuité très forte quand on sait qu'aujourd'hui, la popularité du président est faible en France, notamment du fait du délitement des services publics, de la réforme des retraites, etc. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour le président de la République là, qui va être de ne pas acter des reculs dans notre système de protection sociale et dans nos.
Oui, mais il faut
faire
des économies. Il faudra en faire davantage pour financer notre armée.
On a plein de possibilités de faire des économies d'une part, et d'autre part, on peut récupérer des recettes. Il y a énormément d'idées qui sont sur la table pour récupérer des
impôts
recettes,
supplémentaires.
Des impôts supplémentaires sur les personnes qui peuvent les payer, et il y en a beaucoup qui peuvent les payer. Vous savez que la taxe notamment dite Zucman qui est passée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et c'est une victoire, je m'en réjouis.
Mais est-ce qu'il faudra un impôt Ukraine ?
Je pense pas qu'il faille un impôt Ukraine, je pense qu'il faut financer les dépenses de l'État de manière globale avec un système fiscal renouvelé.
Ce qui complique la situation, alors là pour le coup de la France, pas de l'Europe mais de la France, c'est qu'il se trouve qu'on va avoir besoin de ressources supplémentaires en matière de défense, pas seulement de défense, mais dans l'immédiat d'abord de défense, à un moment où nos finances publiques sont dans un état lamentable. Et que donc, c'est une situation, c'est bien plus compliqué.
C'est pas le cas des autres pays européens.
Mais c'est ce que j'allais vous dire.
L'Allemagne est dans une situation économique très difficile, par exemple.
Pire que la nôtre, même.
Oui.
Les finances publiques.
Mais c'est vrai que pour l'Italie ou pour l'Espagne, les choses se présentent autrement. Encore que, et l'Italie et l'Espagne soient justement deux pays importants qui sont très en retard en matière de dépenses et de défense, et donc vont être obligés de faire des efforts proportionnellement plus important que
mais donc tout l'enjeu, je pense, à l'échelle nationale va être la répartition de cet effort et son acceptabilité.
Merci de cette discussion avec Alain Duhamel, Lucie Castet. Un dernier mot, Alain, quand même, simplement, sur toute autre chose, c'est la disparition, aujourd'hui, on l'a appris, de Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien président du Conseil constitutionnel, l'ancien président de l'Assemblée nationale, justement.
Oui, que je connaissais depuis une cinquantaine d'années, et quand il était venu me présenter sa thèse de droit chez moi, en me demandant si je pensais que ça pouvait être éventuellement imprimé, etc. Donc, je le connais bien. C'est un homme très sympathique, il faut dire les choses comme elles sont. Toute question politicienne mise à part, c'était un homme vraiment sympathique. c'était pour moi, c'était le grognard de Chirac. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait pour lui une affection, une disponibilité, une admiration sans borne, une inconditionnalité, y compris pour ce qui était critiquable, hein, et jusqu'au bout. Et il avait des relations quasi filiales avec lui. Ce qui est intéressant, d'autant plus que lui-même avait un père naturel qui était Michel Debré, qui n'était pas une petite personnalité non plus. Et bon, c'était un bon républicain. C'est quelqu'un qui a longtemps été très sous-estimé.
Il a eu un des plus beaux CV de la République. Ben,
et au départ, oui. Ben, d'abord, il a eu beaucoup de mal dans ses études, il a eu beaucoup de mal au début. Mais son sauveur, ça a vraiment été, comme quand il avait 25 ans, ça a vraiment été l'attachement instantané pour Chirac et le fait que il s'identifiait à lui à chaque moment. Bon, et puis lui qui avait commencé difficilement dans une famille extrêmement théâtrale, avec des très fortes personnalités, avec un père que j'ai très bien connu, qui était difficile pour ses fils, avec un frère jumeau qui Bernard. Était brillantissime, plus que lui, il faut dire les choses. Avec l'ombre du grand-père qui était aussi hyper autoritaire.
Robert Debré,
oui. Et donc, qui était le plus grand pédiatre d'Europe. Mm-hmm. Et puis qui est celui qui a créé les CHU. Il a mis longtemps à pousser, si j'ose dire. Il n'a pas été un bon ministre de l'Intérieur, il faut dire les choses. Ensuite, en revanche, il a été un excellent et sympathique président de l'Assemblée nationale, respectant les oppositions. Et ce qui est beaucoup plus rare que d'être apprécié des oppositions, adoré par le personnel. Ce qui n'est pas donné à tout le monde.